Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. J'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on amène des choses de la maison des Hautebord? Mon père lui dit, parce que nous recherchons dans ses vêtements des traces, des bouts microscopiques des gens qui ont habité la maison. Gilbert lui demande, mais pourquoi? Son père lui dit, parce qu'ils ont décidé, c'est de recréer un Hautebord. Gilbert demande, pourquoi? Maurice lui dit, peut-être pour nous faire de la pub. Framblant peut tout, même faire revivre les Hautebord. Je ne sais pas, c'est Judith qui a eu cette idée, qui sait ces choses. Gilbert lui demande, n'êtes-vous pas au courant, père? Son père lui dit, non, pas vraiment. Gilbert lui demande, mais pourquoi? Maurice lui répond, c'est une chose sans importance. Qui s'occupera encore à notre époque de ces gens-là? Je les laisse faire, ça peut être intéressant scientifiquement parlant, bien entendu. Va voir Judith. Bon, j'y vais. Et Gilbert sort du bureau de son père. Il prend l'ascenseur pour aller deux étages plus bas, voir Judith. Arrivé à son étage, il dit à son hôtesse, j'aimerais voir mademoiselle Lair. Bien monsieur. Et elle s'éloigne. Va voir la secrétaire de Judith. Puis elle revient. Et dit à Gilbert, mademoiselle la directrice des relations humaines veut bien vous recevoir dans son bureau. Veuillez me suivre. Gilbert la suit. Il se dit que de cérémonie et de perte de temps, le jour où je serai président, ça changera. Mais qu'est-ce que je dis? Je ne serai jamais président. L'hôtesse appuie sur le bouton. Le voyant vert s'allume. Elle fait entrer Gilbert. Judith, en le voyant arriver, se lève. Il va vers elle. Elle lui dit, monsieur, quel honneur! Asseyez-vous, je vous en prie. Il s'assoit en face du bureau. Elle lui dit, je peux quelque chose pour vous? Gilbert lui dit, j'ai justement besoin de quelques informations. Je vous écoute. Elle lui dit, voilà, j'ai appris c'est que l'on déménageait certaines choses de la maison Hautebord et j'aimerais savoir pourquoi. Elle lui dit, qui vous a parlé de ça? Il lui dit, un ami. Elle lui dit, bien, dans un cadre de recherche scientifique et pour voir si nous en étions capables, nous avons décidé d'essayer de faire revivre un des membres de cette illustre famille, et ceci grâce à ce que nous trouvons dans leurs vêtements, sang, peau, ADN, etc., etc. Bien entendu, cette nouvelle doit rester secrète. Nous voulons être les premiers à faire ce genre de choses. Quelle publicité à notre groupe ? Gilbert lui demande, mais pourquoi les Hautebord ? Pourquoi pas les Pontois, les Jeunes Toux ou les Dieppe ? Est-ce qu'il reste quelque chose des Dieppe ? Judith lui répond, c'est peut-être déjà fait depuis longtemps. Gilbert lui dit, alors, ça s'est déjà fait, pourquoi il n'est pas à notre place ? Puisque le goût Jeune Toux Pontois est à eux. Elle lui répond, vous êtes à la place que vous devez être, ne faites pas de soucis. Que l'on fasse revivre qui que ce soit, personne ne prendra votre place. Vous êtes vraiment à votre place. Elle lui sourit et lui dit, il est l'heure de déjeuner. Vous le désirez, je vous invite à déjeuner. Je peux bien le faire, vu votre jeunesse. Réfléchis, se dit que peut-être, en déjeunant, il en saura plus. Il lui dit, j'accepte, merci. Ils se lèvent tous deux. Il est 13h30. Ils sortent du bureau. Ils vont prendre l'ascenseur. Les gens les regardent. Mademoiselle Lapin les suit du regard. Ils sortent de l'ascenseur. Mademoiselle Lapin les regarde ensemble. Elle se dit, ah, c'est Judith! Elle va encore prendre des galons. Et ils sortent du siège. Une fois dehors, Judith dit à Gilbert, je connais un petit restaurant sympa, pas bien loin d'ici. Elle le guide. Elle le mène dans une rue transversale. Il y a un petit restaurant qu'on appellerait un bouchon à Lyon. Ils y rentrent. Il y a du monde et c'est tout petit. Le garçon est un gros homme, à cheveux grisonnants, habillé d'un tablier bleu.
Bonjour, mademoiselle Judith.
Elle lui dit, bonjour, Martin. Nous sommes deux. Il lui dit,
attendez. Ah, voilà. Je vois encore une table. Venez.
Une fois qu'ils sont assis, l'un en face de l'autre, à une petite table, Martin demande,
qu'est-ce que je vous offre ?
Judith lui demande, « Vous avez du bœuf bourguignon aujourd'hui ?» Il lui répond,
« Oui, bien sûr. »
Elle lui dit, « Alors, deux bœufs bourguignons avec un petit bourgogne. »«
Bien, madame. »
Il s'éloigne. Elle demande à Gilbert, « J'espère que c'est que ça ne vous gêne pas que j'ai choisi le repas. » Il lui dit, « Non, puis de toute façon, je ne sais jamais ce que je veux. Je ne sais jamais ce que je veux prendre. » Mais je croyais que ce genre de cuisine était démodé. Il dit, oui et non. Mais il est de bon ton de faire de temps en temps des bons petits plats comme avant, à l'ancienne. Au diable, le régime et compagnie. Là, j'avais envie, c'est de me faire plaisir. Parce que vous êtes avec moi. Je suis très heureuse que vous soyez avec moi. Il lui sourit et lui répond, merci, mais... Je ne vois pas pourquoi. Elle lui répond, parce que vous êtes très joli jeune homme, j'allais dire garçon, et que j'aime la beauté. Il est tout rouge, et ne s'attendait pas à ce qu'elle lui fasse du charme. Martin arrive avec le plat. Il les serre et leur dit
« Fais à l'ancienne, rien de tel pour les amoureux. »
Il éloigne. Il commence à manger en silence. Elle le regarde bien, il lui dit
« Mais je vois pas ce que vous trouvez. »
Elle lui répond
« Vous risquez, c'est de devenir l'homme le plus puissant du monde. »
Il rit et lui demande « Et pourquoi ?» Elle lui répond
« Parce que vous êtes très intelligent, vous trouvez tout seul les solutions sans vous en rendre compte. »
Il lui dit « Mais quelle solution ? Je n'ai rien fait. »
Elle lui dit « Hein ? Vous voyez ? Sans vous en rendre compte. »
Il dit « Je comprends. Vous cherchez à me persuader que je suis quelqu'un de génial. »
Pour toucher mon orgueil et que je puisse continuer à travailler au siège et peut-être même remplacer mon père plus tard.
Il lui dit, ce serait inévitable.
Et pourquoi?
Parce que personne ne peut le faire et que vous êtes tellement bien et intelligent.
Il lui dit, oh arrêtez.
Il lui demande,
vous êtes fiancé?
Il lui dit,
j'ai une amie, oui, Nathalie.
Elle lui répond,
il vous faut quelqu'un de très bien qui soit à votre hauteur.
Il lui dit,
et qui?
Il lui répond,
je sais pas,
mais quelqu'un qui connaisse bien vos affaires et qui soit célibataire.
Il lui dit, de toute façon, je ne veux pas me marier pour le moment.
Et puis, je ne veux pas m'occuper des affaires de mon père.
Je l'aide un peu parce qu'il est fatigué.
Et lui dit, un jour, vous serez bien obligé de prendre des responsabilités.
Et il continue à parler.
Lorsqu'il retrouve vendredi soir Nathalie, à la sortie de ses cours, elle lui dit « Tu sors avec cette fille maintenant ?» Il lui demande « Et quelle femme ?» Il lui dit « C'est Judith. » Il sourit et lui dit « Elle au moins me prend pour l'homme le plus intelligent du monde. » Elle lui dit « Elle te prend surtout pour le célibataire le plus riche du monde. » Les jours passent. Julien continue à travailler à la clinique Jeune Tout Riquin, le soir comme infirmier. On reçoit toujours des gens brûlés pour leur greffer de la peau. Il y a toujours des arrivages sur des chariots, de drôles d'arrivages. Des choses ligotées, des personnes terrorisées. Dans la nuit, il y a beaucoup d'enfants qui sont amenés au sous-sol. Lui intrigué, demande à un infirmier, un homme grand et fort et blond. Sous-sol, l'homme lui dit, « Ça ne vous regarde pas !» Un soir, sans se faire remarquer, il est descendu au sous-sol. Il entend des cris étranges, des cris horribles. Il n'ose pas ouvrir une porte pour voir. Il remonte à l'étage en vitesse. Le lendemain, lorsque Gilbert vient le voir, il lui dit « Il se passe de drôles de choses dans cette clinique. » Il demande « Pourquoi ?» Il lui répond « On amène la nuit des enfants au sous-sol, des adultes sur des chariots attachés et terrorisés. Je suis descendu malgré que ce soit interdit. Et j'ai entendu dans le couloir des cris horribles. J'ai pas osé aller voir. » Gilbert lui dit, « Il y a dans la clinique un laboratoire expérimental. » Gilbert lui demande, « Au sous-sol ?» Gilbert lui dit, « Oui, peut-être. » Une nuit, il veut en savoir plus et décide d'aller au sous-sol. L'ascenseur est occupé, il descend à pied. A-t-il fait quelques marches qu'il est pris par derrière? D'un coup, il se retourne et voit un gros homme fort, chauve. Il est interdit, monsieur, d'aller au sous-sol. J'y en demande. Pourquoi ? L'homme lui répond, parce que danger, grave, maladie, incurable, on soigne des monstres, des gens effroyables. Il lui dit, j'aimerais voir un de ces monstres. L'homme lui dit, c'est interdit, mais je peux vous en montrer un. Suivez-moi. Et descendent des escaliers. Arrivé au sous-sol, longe un couloir. L'homme s'arrête à une porte et dit,
Attention, ça peut être dangereux.
Et il ouvre la porte.
Là, dans une pièce enchaînée, avec de grosses chaînes qu'ils maintiennent aux bras et aux jambes, un homme énorme, gros, poilu, le visage défiguré, le nez aplati, les lèvres tordues, les yeux qui sortent de la tête, le crâne et tout gonflé. L'homme a sur le corps plein de grosseur puante. Il rugit et tire sur ses chaînes. L'infirmier dit à Julien, il est très dangereux, il n'aime que la chair humaine. Et Julien demande, vous l'avez eu? Où? Comment? L'infirmier lui dit, il était dans une maison en ville, il pratiquait le cannibalisme, ne vend rien de lui. Tiens, lui dit, et qui vous a donné? Vous lui donnez à manger quoi? Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? L'homme répond, de la viande, du cadavre humain. D'ailleurs, lui dit, mais c'est dégueulasse! Vous pouvez lui donner autre chose? Il n'accepte que ça. Ils sortent de la pièce. Julien demande, y a-t-il beaucoup de gens comme ça? L'homme lui dit, oui, beaucoup, monsieur. Pourquoi? L'homme lui répond, parce que la misère, sans doute, monsieur. Julien regarde bien l'homme et a l'impression que lui aussi est un monstre. Il remonte. Julien se dit que l'on soigne ou l'on fabrique des monstres. Il va en savoir plus. Et il va demander à travailler dans le service. Demande un entretien au chef des relations humaines de la clinique qui veut bien le recevoir dans son bureau.
Entrez.
Bonjour, monsieur. Le bureau est une grande pièce avec baies vitrées, meubles modernes, verre et métal. L'homme qui le reçoit est à son bureau. Il est grand, mince, blond, dans les 30 ans, habillé en costume gris. Il dit, venez vous asseoir. Je vous écoute.
Il dit, voilà monsieur, j'aimerais être muté dans le service spécial qui est au sous-sol. directeur lui demande « Pourquoi ?»
Il lui répond « Parce que j'aimerais aider les gens qui souffrent et je sais qu'il y a dans ce service des cas très graves. J'aimerais leur donner la dignité humaine, leur redonner la dignité humaine. »
Le directeur lui dit « Merci, c'est très bon. Mais vous savez, c'est que ces gens, ce qu'ils ont, c'est très grave. Il faut être très spécialisé pour s'occuper d'eux. Vous n'êtes pas formé pour ça. »
Julien lui dit, « Mais je veux être formé. »
L'homme lui dit, « Mais il faut le diplôme de médecine et être formé pendant 10 ans en asile, c'est-à-dire voir les psychopathes, les cannibales, violeurs et autres, tout ce que la justice ne veut plus s'occuper, nous leur refile, les gens dangereux, c'est pour nous. »
Mande, mais que fait ces gens-là dans une clinique comme la nôtre?
Le directeur lui répond, parce que nous faisons des expériences pour le cerveau.
Comment? Quoi?
Nous essayons, c'est de remettre en marche dans le cerveau la conscience du bien et du mal. La conscience qu'ils ont d'être des êtres humains. Comme vous le savez, cette conscience morale du bien, du mal existe dans le cerveau. Mais pour certaines personnes, elle ne marche pas ou plus. Alors ça leur fait faire n'importe quoi. Ici, on essaye, c'est de leur remettre en marche cette partie du cerveau.
Julien demande. En leur faisant manger de la chair humaine morte?
Théâtre lui dit. Vous préfériez, c'est qu'elle soit vivante. Il faut bien qu'ils s'alimentent. Et comme il ne peut manger que ça, autrement il meurt de faim. Alors,
Julien lui demande, mais qu'est-ce que vous leur faites pour qu'ils guérissent?
Le directeur lui dit, nous les bombardons de rayons X en essayant de toucher la partie qui est morte. Et puis, pour voir s'il y a du changement, on leur pose des tests. Voilà. On ne peut rien faire de plus à ces gens.
Et vous avez des résultats?
Pour le moment, il y a des morts, beaucoup de morts. Et pour le moment, rien d'autre. Voilà.
Gilbert se sent vraiment bien que dans son lit. Là, la nuit, il attend le sommeil en se disant qu'il a le temps. Et en attendant, il peut penser à ce qu'il veut, penser même à des choses futiles, plus de contraintes, rien. C'est le meilleur moment de la journée, là où il est vraiment lui, où il peut vraiment penser à lui. Des fois, il se dit qu'il devrait faire la grosse matinée, mais il ne le peut, parce que s'il le fait, il a l'impression de sentir coupable vis-à-vis de lui et des autres.
nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.